Les premières écoles en plein air apparaissent dans les années 1920, à la croisée des enjeux pédagogiques, médicaux et sociaux. Elles visent à préserver les enfants de l'air pollué et de la tuberculose, tout en réinventant la forme scolaire. Aujourd'hui, 5 ans après la crise sanitaire et les confinements successifs, de nombreux enseignants éprouvent le besoin de sortir de la classe pour faire travailler leurs élèves dehors et les reconnecter au vivant. L'éducation hors des murs connaît actuellement un regain d'intérêt, car elle permet d'échapper à la rigidité de la classe en favorisant un apprentissage en extérieur. Cette pratique ancienne devient une réponse contemporaine aux enjeux éducatifs et au mal-être du système. Sortir devient un geste pédagogique et également militant. En ce mois de mai où la nature foisonne, CAD École vous propose une série thématique autour de l'école dehors.
Alors, bonjour Vincent Le Calvez.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur des écoles et vous êtes actuellement au pôle ressources de l'INSEI à Suresnes. Et on vous remercie pour d'avoir accepté notre invitation pour parler du mouvement de l'école en plein air. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous présenter ce mouvement, en tout cas ses origines, avant que peut-être il s'institutionnalise à Suresnes et en France. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait remonter avant les années 30, par exemple, pour parler des origines de ce mouvement?
Alors, il faut voyager, il faut aller en Allemagne, à Berlin, en milieu urbain. Et il y a une volonté de médecins hygiénistes, d'enseignants aussi, d'hommes politiques, qui envoient des enfants qui sont vraiment, qui sont pas bien en termes de maladie, puis en termes d'hygiène, les envoient en forêt pour faire une école dans la forêt.
Et donc on est avec des enfants des classes populaires, j'imagine aussi.
Oui, tout à fait. Et on les amène en forêt, en banlieue de Berlin, à Charlottenburg, dans la banlieue de Berlin. Et ils vont être scolarisés, alors d'abord à la belle époque, au printemps et en été, en forêt, dans des grands chalets en bois, sans porte, sans fenêtre. Le but, c'est de faire classe dehors. Et ce mouvement, en fait, va faire des petits, d'abord en Hollande, en Angleterre, et puis bien sûr en France.
Voilà, et donc on arrive vite à Suresnes, en fait, dans les années 30, avec un maire, Henri Cellier, qui va se saisir, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, à la fois de ce mouvement et puis d'un contexte qui est celui de sa ville, pour construire une école, qui est l'école de Suresnes. Alors, est-ce qu'on pourrait présenter à la fois son projet et voilà, comment elle est construite, cette école, où elle se trouve?
Alors, Cellier veut lutter contre les maladies de l'ombre, c'est-à-dire lutter contre la tuberculose et les maladies liées au manque d'hygiène. Et il va donc à Suresnes, sur une commune qui est plutôt ouvrière, il va faire une cité-jardin. Parce qu'il faut savoir que Cellier a l'initiative de 11 cités-jardins en Ile-de-France et bien sûr une école de plein air. Et il va s'accompagner de deux architectes qui sont Eugène Baudouin et de Marcel Lotz, de concevoir une EPA, école de plein air, pour les enfants qui en ont besoin, les enfants de Suresnes qui en ont besoin.
Voilà, et donc ces bâtiments, sont dans un endroit en hauteur au-dessus de la ville. Donc c'est là où on voit aussi qu'on sort du milieu ouvrier et puis de tout ce qui pouvait se passer en bord de Seine au point de vue de la pollution de l'air et de l'eau, etc. Et avec des bâtiments qui sont conçus pédagogiquement pour faire l'école dehors et à l'intérieur avec ces blocs de classe distincts les uns des autres.
Voilà, alors ça c'est le génie de Cellier, c'est de proposer une école dans la nature, de la nature. Il va concevoir, avec les deux architectes, un grand bâtiment collectif qui protège des vents du nord les pavillons classe. Et les classes, donc les élèves, vont être scolarisés dans des petits pavillons en verre. Pratiquement, ce sont des petites maisons de verre. Et ils vont faire le choix, avec les deux architectes, de faire des pavillons qui sont isolés les uns des autres, tout à fait séparés. Comme ça, en fait, c'est des petits modules. Chaque pavillon, chaque classe va avoir une terrasse, va avoir un système de baies vitrées qui vont s'ouvrir en accordéon. Et l'enfant est à la fois en classe, mais hors classe. Et avec l'aide d'un grand designer de l'époque qui s'appelle Jean Prouvé, ils vont proposer aux élèves un mobilier d'une grande légèreté en almacilium. Et donc, les enfants, ils vont pouvoir moduler leur classe avec les enseignants et faire classe dans les petits jardinets, sur les terrasses ou à l'intérieur de la classe.
Voilà, et donc cette école, c'était donc une école municipale, si on peut dire, l'école pour les enfants de Suresnes. Et puis, alors peut-être que ça commence dans les années 40, mais en tout cas après-guerre, ça devient une école qui accueille, alors peut-être que c'est sous l'effet, et je pense que c'est le cas de formes de vaccination ou les maladies dont on parlait, maladies pulmonaires en particulier, ont tendance à s'estomper. Et l'école prend une autre fonction. Elle continue à exister, mais avec une autre fonction, puis peut-être un recrutement différent qui n'est plus celui de la ville.
Oui, bien sûr. Il faut savoir que Suresnes, on a vraiment en avant par rapport au BCG, par rapport à la vaccination. Donc, il y a de moins en moins de cas de tuberculose. Donc, ce n'est pas la peine de faire de la prévention dans l'école de plein air. Et puis, il y a la Seconde Guerre mondiale où il y a des enseignants vont se retrouver avec des enfants dans des grandes fermes, dans des châteaux, des enfants complètement perdus, isolés, abîmés, entre guillemets, choqués, traumatisés. Et ces enseignants, il y en a certains qui vont arriver à l'école de plein air, ils vont laisser un peu de côté l'esprit hygiéniste d'origine pour créer des communautés éducatives dans l'école de plein air. C'est la deuxième grande période. Et là, évidemment, on va avoir un recrutement différent, c'est-à-dire qu'il y a d'autres enfants d'autres communes qui vont venir.
Voilà, et pour devenir, alors c'est peut-être aussi tout le fil de ce site avec l'INSHEA et aujourd'hui l'INCI, autour de la question de l'inclusion et du handicap. Dans cette histoire-là un peu longue, quel est le rapport entre l'hygiène, puis le handicap et la pédagogie, finalement? Est-ce qu'on n'a pas aussi inventé ou investi ces questions-là dans ces endroits-là, pour inventer des formes de pratiques pédagogiques en direction d'élèves? Alors, peut-être moins des élèves malades, comme vous le disiez tout à l'heure, mais des élèves relevant de situations de handicap.
Alors, les écoles de plein air, c'est des lieux de tests, d'expérimentation. L'arrivée aussi de pédagogie type pédagogie freinée, et les enseignants vont être amenés à se questionner sur leurs pratiques, à inventer de nouvelles méthodes, avec des enfants vraiment particuliers, et vont arriver d'autres enfants. Au début, on a des enfants avec des problèmes d'hygiène, des problèmes de tuberculose, et puis vont arriver des enfants avec des formes de handicap, des enfants particuliers, des enfants perturbateurs. Et le système des écoles de plein air, et surtout à Suresnes, ils vont innover, ils vont chercher, tout en acceptant, en accueillant des classes par classe d'âge. Donc, on aura une classe avec une classe de CP, par exemple, avec tout le panel d'enfants particuliers, un enfant perturbateur, un enfant avec dyslexie, un enfant avec une déficience intellectuelle. Voilà. Et l'arrivée du Centre national à côté en 1954 va avoir un impact énorme, puisque l'école de plein air de Suresnes va servir d'application. Et puis le Centre national, c'est un centre de formation qui va d'abord former les enseignants de toute la France, d'Algérie aussi, qui travaillent dans les écoles de plein air. Et au fur et à mesure, notamment à partir de 1963, ce centre va former les enseignants qui travaillent avec des enfants, avec des élèves, déficients physiques, handicapés moteurs ou aveugles. Et ils vont tester des projets, des méthodes dans les écoles de plein air. Il y aura des allers-retours, des passerelles entre les écoles de plein air et le Centre national.
Alors, il ne faudrait pas laisser entendre que les écoles, que Suresnes est la seule école de plein air. Il y a eu tout un mouvement. Il y en avait, alors je ne sais pas s'il y en avait partout en France, mais il y en avait dans beaucoup, beaucoup d'endroits et dans beaucoup de villes.
Entre les deux guerres, on compte environ 200 expériences d'écoles de plein air. Mais Suresnes, en fait, c'est un lieu de test, parce que les enseignants des écoles de plein air de France, ils viennent à Suresnes se former et ils peuvent observer, comparer entre leur école, par exemple l'école de plein air de Saint-Quentin, par exemple, et puis l'école de plein air de Suresnes. Et donc là, il y aura des échanges, il y aura des enregistrements dans les deux sens d'ailleurs.
Alors, une dernière question. L'école de plein air de Suresnes, je crois, ferme en 94. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment que 30 ans plus tard, cette histoire ou cette mémoire n'est pas forcément très présente, notamment pour ceux qui se réclament d'un mouvement autour de l'école dehors. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, malgré tout pour vous, de ce mouvement-là? Quel est l'héritage?
Les écoles de plein air, c'est surtout un lieu ségrégatif. Hein. par rapport à l'école inclusive, c'est un peu à l'opposé, mais je dirais que ça a eu un impact sur tous les dispositifs, les ULIS, les SECPA, les SES, voilà, par rapport à la prise en considération des enfants particuliers, à la bienveillance, au projet éducatif. Il faut savoir que dans les écoles de plein air, il y avait des projets de scolarisation individuelle des enfants. Et je pense que là, ça a eu vraiment un impact. Après, par rapport à l'éducation nature, à l'école de dehors, l'école de plein air, c'est malheureusement un mouvement qui s'est arrêté, mais qui a repris un peu de la graine après le confinement, où là, l'école de plein air de Suresnes a été citée dans énormément d'articles de presse. Et c'était vraiment le modèle. Alors, soyons attentifs au mouvement là, qui se recrée d'école dehors, à voir, à continuer, à observer.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Si la thématique de l'école dehors vous intéresse, vous pouvez écouter les 4 autres épisodes de Cas d'école dans les hors-séries du mois de mai. Vous pouvez également retrouver des ressources sur cette thématique dans la rubrique Pour aller plus loin sur le site de Cas d'école à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cas d'école. À bientôt!